Merci Jean-Pierre, Michael et toute l'équipe. Je suis très heureux de vous revoir ce matin. Ça fait quelques semaines pour ma part. Alors, je pense que la plupart, on était un peu en voyage pendant ce mois de juillet. Pour ma part, ça fait quelques dimanches que je n'avais pas pu venir. Et je suis rentré tout juste hier soir de plusieurs camps d'été. Voilà, j'ai enchaîné les camps. Voilà, l'occasion de rencontrer plein de jeunes, de leur parler du Seigneur, de vivre des vacances aussi avec eux. Et j'aimerais, avant d'arriver au texte biblique qui va nous intéresser ce matin, parler d'une expérience que j'ai vécue cet été. Pendant l'un des camps, le dernier que j'ai fait. On était avec donc un groupe d'adolescents. On était en road trip, c'est-à-dire un camp itinérant avec des minibus, et puis on plantait nos tentes de terrain en terrain pour visiter la belle région du Sud-Ouest. Et lors de notre premier campement, décampement, le premier jour du, la première fois qu'on doit enlever notre campement, on charge les minibus, la remorque, on décolle, on arrive à notre deuxième lieu de campement. Et quand on ouvre la remorque, nous avons une surprise, c'est qu'il nous manque une tente. Et c'est pas la petite tente, c'est une tente 5 places, un truc énorme qui peut, normalement qu'on voit, qu'on ne peut pas rater. Et on se dit, comment c'est possible qu'on ait oublié la tente? Alors je prends le véhicule, le minibus, je retourne au point d'avant, je fouille tout le terrain où nous étions. Impossible de retrouver la tente. Pourtant, on l'a dépliée, on l'a repliée, elle était prête à être chargée, et elle a disparu, et aujourd'hui encore, je pense que je vais mal dormir quelques nuits, parce que je ne sais pas où est passée cette tente, et je vais devoir l'expliquer à mes responsables. Là n'est pas le sujet. Le truc, c'est que je me suis rendu compte, ça m'a rappelé à quel point, quand on perd quelque chose dont on a besoin, on se met dans des états pas possibles. Je peux vous dire qu'avec l'équipe, on a refait la scène un nombre de fois incalculable. Comme je dis, je suis retourné sur place, j'ai passé des coups de fil. Il y avait des scouts à côté, je me suis dit, ils nous ont volé la tente, c'est pas possible. Je me suis posé plein de questions. Et je me suis dit, c'est fou, quand on perd quelque chose dont on a besoin, comment on peut se mettre dans des états pas possibles? Et l'histoire dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est une histoire... On parle de quelqu'un, en l'occurrence, qui a été perdu, puis retrouvé. C'est une histoire qui est bien connue dans la Bible. Peut-être vous voyez déjà où je vais en venir. C'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. En tout cas, c'est la version que nous allons lire ce matin. Je crois que c'est le seul évangile où elle se trouve. Voilà, donc l'évangile de Luc. Luc, c'était quelqu'un qui n'a pas connu Jésus de son vivant, mais qui a côtoyé des personnes qui ont connu Jésus, qui ont vécu avec lui, et qui a écrit donc ce qu'on va appeler une biographie de Jésus, qu'on appelle l'évangile de Luc. Et dans son évangile, Luc partage plusieurs paraboles, c'est-à-dire que Jésus enseignait sous forme d'histoire à propos du royaume de Dieu. Il parlait de Dieu en utilisant des histoires de la vie commune que les gens pouvaient comprendre et en faisant des références aussi à ce que les gens connaissaient. Et donc, dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, il nous est rapporté 3 paraboles de Jésus, et si on devait intituler ce chapitre, on dirait que c'est le chapitre de ce qui était perdu et qui est retrouvé. J'aimerais que ma tente fasse partie de ce qui est retrouvé, mais ce n'est pas encore le cas. La première parabole, on parle d'une brebis qui est perdue et le berger quitte toutes les autres brebis pour la retrouver et la ramener à la maison. La deuxième parabole, c'est la parabole d'une femme qui perd une petite pièce et qui va retourner toute sa maison pour retrouver la pièce perdue et la retrouver. Et la troisième histoire est plus longue, un petit peu plus complexe, c'est l'histoire qu'on appelle habituellement celle du fils prodigue. Et ce matin, j'aimerais vous expliquer pourquoi je n'aime pas ce titre de la parabole du fils prodigue, et ce sera la conclusion après avoir commenté un peu cette parabole. Alors c'est un texte que peut-être vous connaissez, et certainement des textes sur lesquels on prêche les plus souvent. Et peut-être ce matin, je ne prétends pas apporter beaucoup de nouveautés, ce n'est pas le but, c'est simplement de prendre conscience peut-être encore plus du message profondément choquant, il me semble, de cette parabole. Ouais, Léonel, je te laisse gérer les slides, merci. Alors une chose qui me semble importante avant de commencer, et je crois que ça va vraiment nous aider à bien comprendre ce que Jésus voulait dire, c'est de regarder à qui Jésus s'adressait. Au tout début du chapitre 15, le chapitre commence comme cela. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux ». Luc catégorise les auditeurs de Jésus en 2 catégories. Il y a d'un côté ceux qu'on dit les pécheurs notoires, les collabos avec les Romains, les prostituées, les gens avec qui on ne veut pas traîner, les gens avec qui on ne veut pas passer du temps. Et eux ont soif d'être avec Jésus. Visiblement, ce que Jésus dégage, ce que Jésus transmet, ça les attire, ça leur donne envie. Et puis, il y a les pharisiens, les spécialistes de la loi, ceux qui respectent et qui rajoutent des commandements de ce que Dieu dit. ce serait peut-être aujourd'hui quelqu'un qui lit sa Bible tous les jours, qui fait tout bien, parfaitement. Et eux, ils ont tendance à critiquer Jésus. Je ne dis pas que lire sa Bible, ce n'est pas bien, je vais y venir. Mais eux, ils ont tendance à critiquer Jésus, à ne pas comprendre ce que Jésus venait dire et venait faire. Et dans l'histoire que nous allons lire, nous allons voir deux fils qui ont sans doute, si c'est précisé, représentent ces deux publics et un père qu'on comprend être Dieu et qui va peut-être justement, c'est là où il me semble que cette parabole est choquante dans comment elle présente Dieu comme le Père. Alors je vous propose de lire cette parabole, en tout cas la première partie. Jésus poursuivit. Un homme avait deux fils et le plus jeune lui dit « Mon Père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le Père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Posez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. » Amen. On ira après la deuxième partie de cette histoire. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur le comportement de ce fils, de ce premier fils, avant de regarder le deuxième. Le fils fait plusieurs choses qui, pour nous, alors peuvent nous choquer, mais peut-être pas autant que les auditeurs de Jésus. La première chose que fait ce fils, c'est qu'il va demander l'héritage à son père. Et ça, peut-être déjà aujourd'hui, ça peut nous surprendre. Je ne sais pas si ça vous viendrait à l'esprit d'aller voir vos parents encore en vie et de leur demander la part de papa, maman, donne-moi l'argent que tu me dois quand tu mourras, on va faire comme si tu étais déjà mort, et moi je m'en vais. Donc c'est déjà un affront terrible que ce fils va faire à son père. Et finalement, ce que ce fils montre, c'est déjà qu'il n'a pas grand-chose à faire de son père, qu'il ne l'aime pas, qu'il ne le connaît pas, qu'il ne lui fait pas confiance. Il y a souvent, quelque chose, une déconnexion entre ce fils qui pourtant habite dans la maison du père et son père. Ce fils s'en va et il va tomber dans le texte parle de la débauche. Donc il va commencer à faire la fête, les sorties, les filles et tout ce qui va avec. Ce fils, il s'est mis en recherche de quelque chose qui allait visiblement le combler, qu'il n'avait visiblement pas trouvé dans la maison. Il s'est dit, l'herbe va être plus verte ailleurs, je vais sortir et je vais trouver quelque chose qui va me rendre heureux. Il pense que le bonheur se trouve ailleurs. Et ça m'interpelle, moi, dans ma propre vie. Je me dis combien de fois, dans ma vie, je cherche toutes sortes de choses qui vont me combler, qui vont me rendre heureux et qui finalement finissent par me décevoir comme ce fils. Bien des fois, alors peut-être c'est plus dans ma vie passée, mais peut-être aujourd'hui encore, je me comporte comme ce fils qui agit comme si son père, comme si Dieu n'existait pas, et qui cherche le bonheur loin de lui. Et j'ai bien aimé cette citation. Il y a deux auteurs que je vais beaucoup citer ce matin. Un qui s'appelle Henry Nouwen, qui est un théologien néerlandais, et l'autre c'est Timothy Keller, qui est un théologien américain, si je ne dis pas de bêtises. On peut lire la citation de Henry Nouwen juste après, il me semble. Alors encore après. Encore, voilà, parfait, merci. Pourquoi est-ce que je continue à ignorer la place du véritable amour et que je persiste à le chercher ailleurs? Ah pardon, je suis le fils prodigue chaque fois que je cherche l'amour inconditionnel là où il ne peut être trouvé. Pourquoi je continue à ignorer la place du véritable amour et que je persiste à le chercher ailleurs? Pourquoi est-ce que je continue à quitter la maison où je suis appelé un enfant de Dieu, le bien-aimé de mon Père? Je suis toujours étonné de voir comment je continue à prendre les dons reçus de Dieu ma santé, mes dons intellectuels et émotionnels, et les utiliser pour impressionner les gens, recevoir l'approbation et la louange, et rivaliser en vue des récompenses humaines, au lieu de les développer à la gloire de Dieu. Et c'est vrai, si souvent des choses qui sont bonnes que Dieu, que le Père nous donne, nous nous en servons non pas pour davantage le glorifier, connecter avec lui, mais pour chercher à combler quelque chose que seul le Père peut combler. La suite de l'histoire pour ce fils, c'est qu'il se retrouve au milieu des porcs. Et ça, pour un juif de l'époque, alors tiens, pour nous, moi je reviens, on a visité une ferme pédagogique avec les jeunes, les porcs, c'est pas très propre, c'est pas très, ça donne pas envie de traîner beaucoup avec eux. En tout cas, après, je me trouve que c'est un cliché qu'on a, mais moi, première vue, j'ai pas envie de passer du temps avec eux. Et d'autant plus pour un juif à l'époque, les auditeurs de Jésus devaient se dire, mais c'est le fond du fond. Les porcs, c'est des animaux impurs, qu'on ne mangeait pas, qu'on ne touchait pas. Et j'imagine le fils dans cette situation qui se dégoûte, qui se sent sale, qui effectivement rentre en lui-même, réfléchit, se remet en question. Et là encore, je peux me reconnaître dans ce fils. Des fois où, par mes pensées, mes paroles, mes actions, je me sens sale, je me dis, mais j'ai fait ça, j'ai dit ça, pourtant je suis chrétien, je ne te verrai pas. Et je crois que ça nous arrive tous ces moments où une réaction, une pensée, une parole, on peut se sentir, au milieu des cochons. Alors regardons comment le Père lui réagit à ce fils. Je ne sais pas si quelques instants on se pose la question, mais à la place du Père, comment j'aurais réagi? Mon fils a considéré que j'étais mort, il est parti loin de chez moi, et quand il revient, il sent mauvais et il est rempli de l'odeur des cochons. Le Père, ce qui est frappant, c'est l'accueil qu'il accorde à son fils. Alors j'ai noté quatre choses qui, moi, m'ont marqué. La première chose, c'est qu'il attend. En tout cas, vraisemblablement, quand le fils arrive au loin, le père est déjà en train de regarder dans la direction dans laquelle son fils arrive. Il l'aperçoit. Et j'imagine le père, si on se dit que le père c'est Dieu, le père n'attend pas son fils parce qu'il a besoin de son fils. Il a tout ce qu'il faut, il n'a besoin de rien. Si le père attend son fils, c'est parce qu'il le désire. Il veut être avec son enfant. Et ça déjà, ça en dit long, je crois, sur Dieu. Dieu qui n'a besoin de rien, et qui pourtant nous désire et désire notre présence. Ensuite, un élément qui peut-être ne nous choque pas, nous, dans notre culture occidentale du XXIe siècle, mais ce père, il va courir vers son fils. Pour les auditeurs de Jésus, vraisemblablement, ça, c'est très choquant. Parce qu'un père, un homme, dans la culture, à l'époque, ça ne court pas. Ce sont les enfants qui courent. Et puis, ça s'explique aussi par la tenue. Bon, c'est vrai qu'on a un peu le cliché quand on imagine les gens sont habillés avec des longues tuniques, etc. Mais c'est vrai. Ce qui veut dire que si un homme devait courir, il devait remonter sa tenue, mettre ses jambes à découvert, et devant tout le village, toute la ville, courir avec les jambes visibles. Et ça cassait tous les codes d'honneur qu'il y avait liés à un homme de l'époque. C'est là que je trouve ce texte encore plus choquant. Le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, qui siège sur son trône, dans cette histoire, Jésus le compare à un père qui court et qui s'humilie pour accueillir son enfant. Je vais à nouveau citer Henri Nouwen, qui a écrit un commentaire sur cette parabole. « Quand je regarde mon être perdu avec les yeux de Dieu, et que je découvre la joie de Dieu à cause de mon retour à la maison, alors ma vie peut devenir moins angoissée et plus confiante. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux d'accroître la joie de Dieu en laissant Dieu me trouver et m'amener à la maison ?» pour fêter mon retour avec les anges. Ne serait-ce pas encore plus merveilleux de faire sourire Dieu en lui donnant la chance de me retrouver, de me trouver et de m'aimer avec prodigalité? De telles questions soulèvent un enjeu réel, celui de l'image que j'ai de moi-même. Puis-je accepter que je vaux la peine d'être cherché? Est-ce que je crois qu'il y a un désir réel en Dieu d'être simplement avec moi? C'est là le cœur de mon combat spirituel, le combat entre le rejet et le mépris de moi-même. C'est vrai que ce fils revenait. Il n'espérait pas être avec son père, il espérait le servir. Il voyait son père, finalement, comme un patron, ce qu'il allait être embauché. Et à la place, que le père va faire, ce qu'il va le restaurer sans le juger. Le fils n'a même pas le temps de terminer sa phrase, que le père lui donne déjà vêtements, bagues, sandales, sans reproche et sans remarque. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent de venir à Dieu comme ce fils, en m'attendant à ce que Dieu me fasse des remarques. J'ai encore péché, j'ai encore fait cette erreur. Dieu va me le reprocher, Dieu va me dire, et c'est vrai, Dieu corrige ses enfants comme un père qui les aime. Mais quand le père voit le cœur repentant de son fils, ce qu'il fait, c'est qu'il le restaure immédiatement. Il accueille, il aime et il pardonne. Et puis, ce que le Père va finir par faire, c'est proposer la fête. Ce que le Fils était allé chercher à l'extérieur, le Père l'a proposé dans sa maison. Ce que le Fils n'avait pas compris, c'est que la vraie fête, il pouvait l'obtenir si seulement il avait compris qui était réellement son Père, généreux, bon. Et souvent, quand on commente cette parabole, on s'arrête là. On se dit, voilà, c'est l'histoire du fils prodigue. Mais la réalité, c'est que dans cette histoire, Jésus commence par dire, il y a deux fils. Et, comme j'ai dit, il y a deux types d'auditeurs. Et il me semble que les auditeurs à qui Jésus s'adresse, ce sont davantage les pharisiens qui sont représentés dans cette histoire par le deuxième fils. Alors je vous propose de lire la deuxième partie de cette histoire. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita, et dans certaines versions, le supplia d'entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec tes prostituées, pour lui, tu tues le veau gras ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire la fête pour nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. » Puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Amen. Alors là, je me souviens, il y a quelques jours encore, je discutais de ce texte avec des jeunes dans le groupe d'ados que j'avais, et certains, la réaction, et je comprends, m'ont dit, mais c'est vrai quoi. Attendez, c'est le fils, là, ce fils-là, il est exemplaire, il fait tout bien comme il faut, il n'est même pas invité à la fête, c'est normal qu'il râle. Et je ne m'attendais pas à cette réaction, et c'est vrai que ça m'a questionné, je me suis dit, bah, c'est vrai que, après tout, on pourrait se dire, à la place de ce fils, il y a de l'injustice. Ça ne se fait pas. Puis le frère, il a claqué tout l'argent du père. Il revient, on fait la fête pour lui. Ça m'a interpellé sur ce que les jeunes voyaient aussi. Comment ils voyaient le père, comment ils voyaient Dieu. Moi, ce que je note déjà, c'est que le problème du deuxième fils, c'est qu'il ne connaît pas son père. Il habite dans sa maison, il le sert, mais il ne le connaît pas. Il voit son père, visiblement, comme quelqu'un de radin, de dur, d'exigeant. Il voit son père comme son patron, lui aussi. Il pense qu'il doit quelque chose à Dieu, qu'il doit faire quelque chose pour mériter sa place dans la maison. Il fait tout bien, mais par contrainte. Parce qu'il dit que s'il ne fait pas tout bien, il n'aura pas sa place. Et là encore, moi, je me reconnais dans ce fils-là. Je me dis, si je fais, parfois, j'ai cet état d'esprit, et je l'ai souvent eu, peut-être encore plus jeune, que ma place dans la maison de Dieu, elle dépendait de ce que je faisais ou de ce que je ne faisais pas. Si je ne fais pas ce qui est mal et si je fais ce qu'on me demande de faire, Dieu m'aimera plus. Ou je serai mieux vu. Ou ma relation avec Dieu sera meilleure. Et je viens d'un milieu d'église où c'est un peu ce qu'on défendait. Plus tu pries de temps, plus tu es proche de Dieu. Plus tu vas faire des choses, plus Dieu il va te valider. Et j'ai dû apprendre, et cette parabole, ce qui est profondément choquant, c'est que l'amour du Père, visiblement, ne dépend pas de ça. Là aussi, là où le fils non seulement ne connaît pas son père, c'est le premier problème, mais le deuxième problème, c'est qu'il refuse l'amour et la grâce du père. Et là, cette fois-ci, je vais citer Timothy Keller, qui est un autre théologien. Il dit ceci. « Aucun des deux fils n'aimait son père pour lui-même. Tous deux se servaient de leur père pour satisfaire leurs propres intérêts égoïstes, au lieu de l'aimer, de se réjouir en lui et de le servir pour ce qu'il était. Cela signifie que l'on peut se rebeller contre Dieu et être séparé de lui, soit en transgressant ses commandements, soit en les observant scrupuleusement. C'est un message bouleversant. Une obéissance méticuleuse à la loi de Dieu peut devenir une stratégie de rébellion contre Dieu. » Et il continue un peu plus loin. « Le fils aîné ne passe pas à côté de l'amour de son père malgré sa bonté, mais à cause d'elle. Ce ne sont pas ses péchés qui dressent un mur entre lui et son père, mais l'orgueil qu'il tire de sa bonne conduite. Ce n'est pas son injustice qui l'empêche de participer au festin du père, mais sa propre justice. » Ce que le deuxième fils veut, c'est mériter. Il ne veut rien devoir à son père parce qu'il aura gagné sa place dans la maison. Et un autre théologien disait « La grâce, elle est intolérable pour nous humains. C'est dur de se dire qu'on ne doit rien, d'accepter que Dieu nous aime, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Que notre place dans sa maison n'est pas basée sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, mais juste sur son amour et notre repentance comme le premier fils. Et là encore, on voit un père qui, je trouve, est bouleversant avec son deuxième fils. Première chose, c'est que le père sort de la maison, à nouveau, et supplie son fils d'entrer. Il l'invite dans certaines versions, mais certaines versions traduisent avec un terme plus fort, il le supplie d'entrer. Je ne sais pas si on imagine que, encore une fois, le père représente Dieu qui supplie ses enfants d'entrer, de mettre de côté leur orgueil pour accepter son amour inconditionnel. Et puis, ce qui est bouleversant aussi, comme avec le premier fils, c'est que le père finalement laisse le choix à son fils. Ça reste le père, il pourrait le forcer à entrer. Voilà ce que dit Henri Nouwen. Combien il aurait aimé les ramener par son autorité de père et les serrer tout contre son cœur, pour qu'ils ne soient pas blessés. Mais son amour est trop grand pour agir ainsi. Il ne peut ni forcer, ni contraindre, ni pousser, ni tirer. Il offre même la liberté de rejeter cet amour ou d'aimer en retour. C'est précisément l'immensité de l'amour divin qui est la source de la souffrance divine. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, a choisi d'être d'abord et avant tout un père. Et comme père, il veut ses enfants libres, libres pour aimer. Cette liberté comprend aussi la possibilité de quitter la maison, d'aller dans un pays lointain et de tout perdre. Le cœur du père, c'est toute la souffrance qui viendra de ce choix, mais son amour le rend impuissant à l'empêcher. Comme père, il désire que ceux qui restent à la maison jouissent de sa présence et expérimentent son affection. Mais ici encore, il veut seulement offrir un amour qui sera librement reçu. Des remarques finalement assez simples sur ce passage, mais qui moi me bouleversent et m'ont bouleversé tout cet été, quand j'en parlais avec les jeunes notamment. Et en conclusion, je vois l'heure qui tourne, simplement j'aimerais du coup reproposer qu'on renomme ensemble cette parabole. Alors le nom que je vais proposer va être un peu plus long. On dit le fils prodigue, mais ce titre ne me semble pas juste, premièrement parce qu'il y a deux fils dans cette histoire. Donc si on veut, on doit parler des deux fils. Puis, il me semble que le véritable personnage prodigue, c'est-à-dire la personne qui est une générosité extravagante, qui dépense sans compter, le véritable prodigue, c'est le père dans cette histoire, dont l'amour et la grâce dépassent toute mesure. Alors ce que je vous propose, c'est de renommer cette histoire, l'histoire du père qui aime d'un amour constant, inconditionnel et extravagant, du premier fils perdu et retrouvé, et du fils aîné. C'est un peu plus long, je vous l'accorde. Mais il me semble que ça nous parle peut-être un peu plus. Ça nous parle plus parce que ça nous rappelle qui est Dieu, quel père il est pour nous. Et ça peut nous rappeler aussi que parfois dans nos vies, on est toujours l'un des deux fils. Peut-être celui qui se sent sale et loin de lui. Peut-être celui qui, par orgueil, refuse d'admettre qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Et une prise de conscience que j'ai eue finalement assez récemment, alors que j'ai lu ce texte bien des fois, c'est qu'en fait, ce personnage, quand on dit le fils prodigue, je ne crois pas que le fils prodigue soit le personnage principal de cette histoire. Je crois que quand Jésus parle à ses auditeurs, il utilise le fils prodigue pour parler des personnes qui viennent à lui et qui reconnaissent leurs besoins. En fait, le fils prodigue, c'est l'exemple à suivre de l'histoire. Le véritable personnage, celui d'ailleurs duquel on ne connaît pas la réponse, c'est le deuxième fils. On ne sait pas ce que le deuxième fils va faire. C'est de lui dont il est question, c'est aussi donc aux pharisiens auxquels Jésus s'adresse. Et peut-être aujourd'hui à nous. Je termine avec une dernière citation de Tim Keller, encore une fois. Dans cette histoire, le Père représente le Père céleste, que Jésus connaissait si intimement. L'apôtre Paul écrit « Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte des fautes des hommes » de Corinthiens 5, 19. Jésus nous révèle un Dieu d'une générosité sans mesure, un Dieu qui n'est rien moins que prodigue envers nous, ses enfants. La grâce déraisonnable de Dieu est notre plus grande espérance. Je vous invite à prier. Père, merci pour déjà d'avoir envoyé Jésus pour nous enseigner sur toi et sur ton royaume, pour nous permettre de te connaître par les Écritures. Et merci pour l'Esprit qui aussi nous révèle que nous sommes appelés tes enfants et qui crie en nous « Abba, Père ». Merci pour cette histoire qui, moi, me bouleverse et j'espère nous bouleverse tous ce matin. Qui nous montre que peut-être nos idées sur toi sont parfois erronées. Que oui, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste, mais tu es aussi un Père avec un cœur débordant d'amour pour tes enfants. qui est prêt à accueillir, à pardonner, à restaurer, à inviter, à supplier d'entrer. Et je te prie pour nous, je te prie pour moi, je te prie pour toutes ces fois où peut-être nous sommes le premier fils, des fois nous sommes le second fils. Aide-nous à sans cesse revenir à la maison autant de fois que nécessaire. Et que tu puisses encore toucher nos cœurs, jour après jour, nous amener aussi à mieux te connaître, et aussi, comme tu nous l'as enseigné, à mieux devenir comme toi, à nous aussi être, d'une certaine manière, des pères et des mères remplis de compassion, d'amour, et capables d'accueillir ceux qui en ont besoin. Que tu nous accompagnes encore dans la suite de ce culte, dans la suite de cette semaine, que nous puissions vivre en réalisant chaque jour un peu plus notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.